Bonjour, je suis Julie Gertin et je te souhaite la bienvenue sur le podcast Découvre, Ose et Deviens, le podcast qui éveille ta curiosité et part à la rencontre de métiers passionnants et inspirants. Il existe plus de 11 000 métiers, alors si on partait à la rencontre, aujourd'hui, je reçois Hélène qui exerce le métier de nez parfumeur. Quel métier incroyable et si complet qui exige à la fois une précision chirurgicale, une maîtrise chimique de la molécule et en même temps une dimension artistique super forte. Celle de décomposer le monde, de l'interpréter et puis surtout d'apporter une émotion à l'autre. Moi j'y ai vu beaucoup de similitudes avec d'autres métiers que j'ai eu la chance d'interviewer. Là je pense à Chloé, chef d'orchestre, Xavier qui est sommelier. Mais évidemment on pourrait aussi comparer son métier à un peintre, un cuisinier, un compositeur de musique. Alors on sait tous à quel point l'odeur est une des émotions les plus fortes. Et à l'ère du tout virtuel, où on pourra acheter des fausses baskets, une robe de luxe virtuelle et participer au gala le plus chic en restant assis sur son canapé en jogging, j'ai trouvé que c'était pas mal du tout de revenir au vrai, au concret et à la beauté de ce sens souvent malmené par nos vies citadines. C'est aussi un vecteur incroyable qui nous pousse à nous reconnecter à notre instinct, notre intuition, nos sensations corporelles. Vous savez, ce fameux instinct qui, lors d'une rencontre, nous fait dire « je sais pas, mais sans que je puisse me l'expliquer, voilà, cette personne, ça va pas le faire. Le fameux « je le sens pas ». Bref, je vous invite à découvrir plus qu'un métier, pour moi, c'est une philosophie de vie. Hélène, un grand merci pour cet épisode super riche et cette bulle de douceur olfactive que tu nous as offert. Et surtout... Surtout, toi qui nous écoutes, si l'épisode te plaît, n'oublie pas le commentaire sur ta plateforme de podcast. Je pense à Apple Podcasts, Spotify, YouTube, pour ne citer que. Et puis bien sûr, je le réexpliquerai jamais assez, je n'ai pas les moyens de m'offrir de la publicité. Alors si le contenu te plaît, sache que la bonne manière de m'aider, c'est de le faire connaître, parce que le bouche à oreille, c'est ce qui marche le mieux sur les podcasts. Alors parle de cet épisode, parle du podcast à tous ceux qui, comme toi, sont des curieux de la vie et adorent découvrir des gens différents et invite-les à venir constater avec nous que la diversité qui nous entoure, elle est réelle et surtout, elle est plutôt canon. Allez, je te souhaite une très bonne écoute, c'est parti. Bonjour Hélène.
Bonjour Julie.
Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Moi, je suis ravie de t'interviewer sur ton métier. Alors, de nez ou parfumeur, tu nous diras s'il y a une nuance entre les deux, si c'est le bon terme que j'emploie. Ce métier, tu l'exerces depuis plus de 20 ans. Et en plus, je crois que tu es vraiment tombée dedans quand tu étais toute petite, assez jeune. Ce métier, je crois, a été vraiment une évidence pour toi. Et justement, ça fait partie des points, parce que moi, je trouve ça magique. Quand il y a cette rencontre qui a lieu comme un espèce de coup de foudre, une évidence, voilà. Et ce que je trouve encore plus magique, c'est quand ce coup de foudre, il passe pas et qu'on arrive à l'entretenir et qu'on arrive après 20 ans à avoir toujours autant d'intérêt et autant de passion pour son métier. Donc, c'est des trucs qu'on va aborder là pendant l'interview parce que j'avoue que j'aurais rêvé avoir cette petite étincelle. Comprendre comment ça peut arriver, cette étincelle, comment on la crée, comment on la provoque, comment on la fait vivre. Ça, je trouve que c'est génial, quoi. Voilà. Alors, avant de démarrer cette interview, moi, je voudrais juste également remercier Valérie Arnoux, qui est donc la directrice de communication de l'ESIPCA, la fabrique par laquelle tu es passée et qui nous a mis en relation. Donc voilà, je voudrais lui faire un petit coucou avant qu'on démarre l'interview. Voilà. Hélène, on va démarrer vraiment hyper simplement parce que justement, je voudrais que tu nous racontes qui tu étais petite et à quel moment cette rencontre magique a eu lieu avec le parfum.
Alors, toute petite, j'étais très dynamique, je jouais beaucoup avec mes poupées, j'adorais me déguiser. Et puis, j'ai été en campagne et j'avais un grand jardin dans lequel... je m'amusais à prendre les herbes et à mettre en solution dans l'eau et à voir ce que ça donnait. Voilà.
Ok, mais ça, comment tu as eu l'idée, quoi? Parce que, enfin, moi, je ne sais pas.
Je ne sais pas, pour voir, je ne sais pas. Voilà. C'est pour faire, en fait, certainement comme de la cuisine. On voit les mamans, les grands-mères. Je sais que maintenant, il y a aussi les papas, même si... on va faire les adultes de la cuisine et je pense que ça vient de là, certainement. Essayer de prendre tout ce qui me tourait, tout ce que j'avais autour de moi et de le mettre dans l'eau pour faire de la cuisine et ça démarrait de là, à mon avis. Et puis, j'ai toujours aussi été très attirée par les odeurs, c'est-à-dire que je marchais avec mon nez. Donc, dès que j'avais un plat qui arrivait, il fallait absolument que je mette mon nez dessus pour sentir ce que ça sentait, ce que j'allais manger. Dès qu'il y a une fleur ou dès que je sentais quelque chose quand on se baladait, il fallait que je cours pour essayer de trouver d'où venait l'odeur. Et ça m'est resté. Alors, c'est un peu bizarre des fois parce que même encore maintenant, quand je marche et que je sens quelque chose, eh bien, des fois, je peux disparaître et aller voir ce que c'est et revenir une fois que j'ai trouvé l'odeur.
Et du coup, ça, est-ce que... Je sais que, par exemple, tu vois, moi, en tant que maman, quand je fais la cuisine, j'appelle les enfants justement pour leur faire sentir les épices. J'aime bien qu'ils cuisinent avec moi. Je leur dis, tiens, tu te souviens de cette épice? Ça te fait penser à quoi? Toi, il y a... Mais parce que moi, ça me plaît. Mais est-ce que toi aussi, tu as baigné, en fait, dans un environnement où on t'a stimulé par rapport à ça particulièrement? Ou vraiment, c'est quelque chose qui t'est venu de manière très intuitive?
J'ai pas le souvenir d'avoir été stimulée particulièrement à ce niveau-là.
OK.
Plus que ça, en fait.
Et à l'inverse, à quel moment tu as pris conscience que ça, tout ce que tu nous racontes, c'était quelque chose qui te différenciait des autres? Tu vois que c'était une aptitude particulière.
Je suis pas certaine que j'en ai jamais pris conscience. J'ai eu la chance d'avoir une maman qui travaillait chez les parfums Givenchy quand j'avais une dizaine d'années. Ça a certainement aidé hein, aussi à la vocation, à trouver en fait le métier que je voulais exercer puisque je ne le connaissais pas. Et donc elle était là-bas, mais elle était assistante du DRH, donc pas du tout à utiliser son nez, etc. Sauf qu'un jour, elle est arrivée à la maison avec plein d'échantillons, puisque c'était les échantillons test, enfin pour le panel test du lancement d'Isatis. Et quand elle m'a demandé si je voulais sentir avec elle, et je lui ai dit, écoute, oui, bien sûr, je veux bien sentir. Et puis à la fin, donc, je me souviens, hein, c'était des échantillons, des petits tubes, des petits sprays. Alors, je ne sais pas si c'était des 7, des 8, des 10 ml, mais bon, c'était des tubes. Et ils étaient ils avaient des lettres de l'alphabet. Et celui que j'aimais, c'était le G. Alors, je ne sais pas si c'est celui-là qui a été choisi. Je crois pas, visiblement, puisque ça ressemble pas trop.
D'accord. Et tu te souviens de l'odeur de ce tube? T'avais quel âge?
Vaguement. J'avais 10 ans. Je me souviens en vaguement ce que ça sentait. Cette mémoire-là voilà, je l'ai pas encore, mais je me souviens de l'effet, et puis surtout d'avoir dit à ma maman, je veux faire ça. Ah, elle me regardait en me disant, tu veux faire quoi? Ça, ce qu'il y a dedans, là, tu sais, là. Et après, c'était un enchaînement, en fait. Je collectionnais les flacons de parfum. Donc, elle avait réussi, avec ses contacts, à me trouver des flacons vides, des verriers, etc. En fait, on voulait juste un. Je voulais celui de Nina Ricci avec les oiseaux qui se font un baiser. Et je me suis retrouvée avec un carton avec, je sais pas, 50, 60. Même 100 flacons exceptionnels en fait, que j'ai toujours, puisque j'ai toujours ma vitrine avec mes petits mes miniatures, et je me suis retrouvée avec tout ça, là j'étais vraiment super contente.
Et ce que je trouve aussi improbable, c'est de me dire que, évidemment, que les choses évoluent, tu grandis, tu changes, ton caractère évolue. La réalité fait qu'on connaît la réponse, on sait que tu as maintenu le cap. Mais comment concrètement, après, tu as suivi tes études, pendant toutes les études qui ont suivi, tu étais fixée là-dessus et tu t'es dit, à 10 ans, là, tu as réalisé que c'était un métier. Ce que tu vivais instinctivement, tu as réalisé que c'était un métier. À partir de ce moment-là, tu t'es accroché à ça et toutes les études sont allées dans ce sens-là, c'est ça?
C'est ça, des études scientifiques. J'ai fait un DUT chimie et puis je savais que l'école qu'il fallait faire, c'était l'ISUCA, okay. Qui a été créée il y a plus de 50 ans par Jean-Paul Garlin. Et donc, j'ai fait cette école... il y a maintenant nombreux quelques années. et voilà, et pour moi, c'était ça qu'il fallait faire.
Très cohérente. Tu fais des études et tu rentres à l'ISUCA. Est-ce que tu peux nous expliquer comment, avant même de savoir ce qu'on y apprend à l'ISUCA, moi, je voudrais savoir s'il y a une sélection, parce que ma question derrière ça, c'est est-ce qu'on juge qu'il y a des prédispositions, tu vois, à être un nez, ou bien on se dit que c'est sur la volonté et que quoi qu'il arrive, on va apprendre les techniques et tout le monde peut devenir nez.
Alors, je pense qu'on apprend, on a des prédispositions, puisque c'est comme Louis, c'est comme tous les artistes, il y a certainement un don qui est présent. Le don, c'est vraiment dans ce qui va être la créativité. Et donc, c'est l'art de pouvoir créer quelque chose de nouveau avec des matières premières que tout le monde peut avoir. Et donc, c'est, pour moi, c'est ça qui fait cette partie du don, comme on peut avoir des grands artistes peintres et puis quelqu'un qui va faire que reproduire ce qui existe sans rajouter une touche créative.
Ok, donc comment les élèves, parce que j'imagine que c'est quand même une école très réputée, il y en a beaucoup qui doivent vouloir la présenter et l'intégrer et tous ne sont pas retenus. Sur quels critères les sélections se font, tu vois, dans cette école ?
Alors, à l'époque, donc il y a plus de 20 ans, quand je l'ai fait, il y avait donc fallait avoir un bac plus 2 minimum avec en chimie, puisqu'on avait une formation en bac plus 4, voire bac plus 5 en chimie, de la chimie organique, chimie analytique, puisqu'on c'était en alternance, on était à la fois à l'ISUCA et à l'université de Versailles-Saint-Quentin, et en plus un apprentissage. Donc quand j'ai fait ça. Et puis, la sélection se faisait sur des tests olfactifs. Et donc, on avait des tests triangulaires ou des tests de reconnaissance de matières premières.
Ok, donc les diplômes, il faut avoir fait de la chimie. Donc ça, déjà, je trouve ça intéressant parce que pour moi, c'était beaucoup comme un, je vais dire une bêtise, mais un sommelier, c'est-à-dire c'était beaucoup sur le sens et pas tant sur la connaissance technique des éléments. Donc déjà, je découvre cette partie-là. Il y a quand même une sélection sur l'odorat. Et après, une fois que tu as intégré l'école, qu'est-ce qu'on y apprend ? Jusqu'où ça va ? C'est quoi les différents domaines, tu vois, d'apprentissage ?
Alors, ce que j'ai appris, c'est les matières premières, donc les techniques d'extraction. On a fait de la chimie aussi, qui est appliquée aux matières premières et aux ingrédients qu'on utilise. Et puis, l'histoire de l'art, bien évidemment.
Non, tu dis bien évidemment, mais je veux bien que tu expliques pourquoi, en fait, le lien.
La création, dès l'instant que l'on crée quelque chose, c'est une forme d'art. Et la parfumerie, pour moi, c'est un art. C'est l'art de composer et de créer une odeur à partir de matières premières. On a 1000, 2000 ingrédients, 3000 ingrédients sur notre palette. On peut avoir tout ça. Alors, évidemment, il vaut mieux avoir un codex un peu plus réduit parce que sinon, ça fait des coûts astronomiques pour les sociétés. Mais ça fait comme si on avait un piano avec 1000 touches, par exemple. Donc, il y a des accords qui sont juste astronomiques à faire. Et donc, à l'école, on apprend à bien sentir les matières premières, à les décomposer, le vocabulaire. On apprend à expliquer, à savoir comment classer les familles, à les découper en notes de tête, notes de cœur, notes de fond, en fonction de leur évaporation, de leur impact dans les parfums. On essaie de commencer à voir quels vont être leurs intérêts dans les parfums. On va sentir des très vieux parfums, donc des parfums qui sont à l'origine de familles d'odeurs. On apprend les familles d'odeurs olfactives, les familles d'odeurs de parfums. Et on apprend aussi à travailler dans un labo, puisqu'on formule des accords simples et ensuite des accords un petit peu plus complexes.
Oui, enfin, vraiment comme un musicien, en fait, finalement. Au début, on fait des partitions assez simples et au fur et à mesure, on les élabore. C'est ça. Quoi. Ok. Pour moi, l'odeur aussi est très fortement reliée à la mémoire et donc au sentiment. Est-ce que ça va jusqu'à, quelque part, un peu presque apprendre les rudiments de la psychologie, tu vois ? Je ne sais pas comment expliquer ça, mais je trouve que c'est tellement relié à... si vous utilisez cette odeur, ça va provoquer ce sentiment-là, cette réaction-là. Il y en a qui sont dans la douceur, il y en a qui sont plus dans, je ne sais pas, l'agressivité, la virilité, etc. Est-ce que ça, c'est des choses qu'on vous apprend aussi à classer ?
Alors, je ne suis pas certaine que c'est ce qu'on nous apprend à faire. Alors, peut-être qu'à l'heure actuelle, on l'apprend plus puisque le bien-être est vraiment au cœur de notre époque. Cependant, le bien-être et les odeurs nous sont propres.
Oui.
C'est-à-dire qu'elles nous appartiennent et elles font partie de notre mémoire la plus ancienne et on va se créer cette mémoire olfactive depuis le ventre de notre maman jusqu'à à peu près une dizaine d'années. Et donc, en fonction de notre culture, de ce qu'on va manger, de notre environnement, on ne va pas réagir de la même façon les uns les autres. Quelqu'un qui va vivre au Japon va avoir un comportement envers les odeurs complètement différent que quelqu'un qui vit en Europe. Et même en Europe, en Espagne, en Allemagne et en France, en Angleterre, on ne va pas du tout avoir le même comportement. Et on peut très bien avoir une réaction de répulsion envers une matière première et adorer une autre, alors que le voisin d'à côté va dire « mais c'est pas possible, celle-ci, c'est repoussant », alors que il adore, moi je l'adore par exemple. C'est très intéressant. Quand je fais des parfums sur mesure, j'ai un questionnaire un peu psychologique que je demande aux clients, parce que justement, le parfum provoque une émotion. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est provoquer des émotions chez les gens. Et je veux juste toucher une personne, ça me suffit. Si j'en touche une, je suis super. Je me dis, j'ai gagné, j'ai réussi à provoquer quelque chose. Provoquer quelque chose, ça peut être même c'est dégoûtant cette odeur ou ça j'adore, j'ai envie de m'enrouler dedans, j'ai envie de m'engloutir, ça me donne envie je me sens belle avec, tout ça. Et ça j'adore.
Ouais, et je trouve que ça touche beaucoup à l'instinct, effectivement. Ça fait partie des émotions, je trouve, l'odorat, où tu ne contrôles pas le mental et je trouve est beaucoup moins fort quoi que pour d'autres sensations. Je trouve en tout cas. C'est-à-dire que tu as une odeur, effectivement, la réaction est immédiate et presque incontrôlable en fait. Et d'ailleurs, on apprend de plus en plus que l'odorat est beaucoup plus puissante que le mental n'en a conscience, quoi. C'est-à-dire que quand il y a des gens qui ne te plaisent pas, il y a une rencontre qui ne se fait pas. Et aujourd'hui, on le sait, quoi, que c'est aussi, ça fait partie des phéromones, enfin de ce qu'on dégage. Et en fait, il y a tout un plan.
L'expression celui-là, je ne le sens pas, c'est réel. Hein.
Exactement. Et en fait, on a l'impression qu'on a décodé le mental, etc. En fait, non, c'est juste notre pif qui, à un moment donné, a fait un filtre et nous a envoyé une grosse alerte. Lui, il va pas te plaire. Donc, c'est exactement ça. Mais en fait, ce que je trouve intéressant là, dans ce que tu dis, c'est qu'à la fois, chaque odeur est personnelle. Si tu as un mauvais souvenir lié à la lavande, évidemment que il va y avoir un effet répulsif. À l'inverse, si tous tes bons souvenirs d'enfance sont liés à ça, évidemment, tu vas adorer. Mais il y a aussi quand même des traits communs par pays, par etc. Ma question derrière, c'est est-ce que justement, un peu comme en musique, tu sais, on fait tous de la musique différemment, mais n'empêche qu'on sait tous qu'il y a des accords qui, quand tu les fais, ça va fonctionner, tu vois. Il y a une espèce de truc de base. Vous apprend ça aussi en école en disant si tu fais cet accord-là, ça sera la base et ça va fonctionner forcément. Ça va forcément faire un hit comme en musique, quoi.
Alors oui, après, on a des accords de base. Par exemple, quand on veut recréer une fougère, on sait quelle matière première on doit utiliser. Quand on veut recréer un chypre, on sait quelle matière première on doit utiliser. Et en utilisant ces ingrédients, on sait qu'on va on va aller dans cette famille d'odeurs. Et puis après, chaque parfumeur va faire son mélange comme il a envie, puisqu'il suffit de changer parfois juste une toute petite quantité. Et le parfum sent différemment. Mais oui, il y a des accords de base qu'on apprend pour formuler. Oui, tout à fait.
Bon, alors une fois que tu sors de l'école, tu peux exercer ce métier de nez dans quel type d'activité, tu vois ? Je pense qu'il n'y a pas que parfumeur. Est-ce que tu veux bien nous expliquer un peu quel type de métier tu peux faire ?
Alors, quand on sort de l'école, on a encore beaucoup d'apprentissage. C'est-à-dire que pour être vraiment parfumeur et savoir maîtriser les matières premières, il faut entre 7 et 10 ans. Puisque il y a tellement d'accords différents, il y a tellement de notions à comprendre. Et puis, quasiment tout est parfumable. Donc, c'est-à-dire qu'on va parfumer aussi bien, alors bien sûr, la voie royale, c'est de faire de l'eau de toilette, de la parfumerie fine, etc. Il existe pour autant d'excellents parfumeurs créateurs pour les gels douches, même pour les nettoyants sol, et des gens qui sont très techniques, on va appeler ça plus des parfumeurs techniques, mais qui, puisqu'ils vont avoir une formation, la formation au niveau de la chimie est vraiment plus poussée. Et ils vont quand même réussir à faire de grands parfums et de grandes odeurs. Et donc ça, voilà, faut vraiment y penser, faut pas l'oublier. Donc on apprend à l'école à vraiment à sentir et pas nécessairement tout le monde veut être parfumeur non plus. C'est-à-dire que c'est vu qu'en 3 ans, on survole, on apprend les principales matières premières, on apprend les principaux parfums, mais il y en a tellement que c'est impossible de tout faire dans cette durée. En plus, on est en alternance, donc ça fait vraiment beaucoup de choses à acquérir en peu de temps finalement. Et donc, l'apprentissage continue après. Et puis, il y a la possibilité de travailler dans les domaines de l'évaluation. On peut très bien aussi bifurquer pour faire du marketing. On peut se diriger vers les achats, vers le sourcing. On peut aussi, pourquoi pas, aller travailler avec l'équipe qui fait la distillation, toutes les extractions, avec le contrôle qualité, avec l'analyse.
C'est ça, c'est très en amont de la préparation.
Sur les matières.
D'accord, ok.
Voilà. Il y a vraiment les possibilités sont vastes, en fait.
Évaluateur, d'après ce que j'ai vu dans les vidéos, c'est donc il y a plusieurs fragrances qui sont préparées, donc c'est la personne qui va aider à la sélection, c'est ça, du parfum.
Oui, l'évaluateur est souvent. C'est l'intermédiaire entre les commerciaux et les parfumeurs. C'est quelqu'un qui connaît énormément son domaine et le marché dans lequel il travaille. C'est souvent des femmes, d'ailleurs. Le métier se féminise de plus en plus.
Moi, je voudrais revenir sur le métier. J'ai l'impression, et tu vas peut-être me dire que ce n'est pas vrai, que ce métier qui est presque autour de l'art, de l'artisanat, etc., est-ce qu'il a évolué, tu vois, dans ses techniques ? Sur les 50 dernières années, ou est-ce qu'on reste finalement sur un métier qui reste assez similaire, en fait, qui évolue peu, mais sans que ce soit une critique?
Alors, il évolue, par la force des choses, puisqu'on a une réglementation qui est très lourde, et donc on est obligé de retirer de notre codex beaucoup d'ingrédients. Qui sont maintenant considérés comme dangereux pour l'être humain. Donc, voilà. Ce qui est une bonne chose et ce qui est aussi un petit peu une énorme contrainte, puisque à force d'utiliser les matières premières, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui se retrouvent à faire des allergies. Et à cause de ça, on a maintenant une liste d'allergènes, par exemple, elle a presque triplé. Et récemment, il y a les très, très grosses maisons de création qui utilisent l'intelligence artificielle. Et donc, j'ai assisté à une conférence très, très intéressante il y a quelques mois de ça. Ils rentrent dans la base de données tous les parfums du marché qui existent. Donc, c'est une analyse poussée sur les ingrédients qui les composent. Et puis, en fonction, donc avec bien évidemment les descriptions olfactives, la tenue, la puissance, la stabilité. Donc, il y a vraiment des critères très lourds qui sont rentrés, des informations qui sont rentrées dans l'IA. Et en fonction du projet, j'ai aucune capacité dans ma société à avoir ce genre d'IA, puisque c'est très coûteux à mon avis pour avoir ça. Je pourrais me tromper sur l'interprétation, donc voilà, mais ce que j'en ai compris, c'est ce que je vais dire. Quand il y a une demande de projet, il rentre les informations dans l'ordinateur, et l'IA propose un premier accord qui est pesé, et ensuite le parfumeur récupère cette formule et va changer quelque chose pour y mettre sa patte pour bien essayer sûr. De voir. Et normalement, c'est quelque chose qui n'aura pas encore été fait.
Oui, donc c'est une grosse évolution, effectivement. Après, si on remonte, effectivement, il y a une centaine d'années, bah, il n'y avait pas toute la partie industrialisation, quoi. C'est-à-dire production en grande quantité. Je pense qu'il y a quand même aussi beaucoup fait bouger le marché, puisque vous êtes en tant que parfumeur, vous créez une essence. Mais après, il faut concrètement pouvoir la décomposer pour l'industrialiser en grande quantité. Je pense que ça joue aussi. Est-ce qu'il y a des modifications aussi, tu vois, dans les matières premières? Est-ce que, je ne sais pas, la proportion en fait, d'essence synthétique est beaucoup plus importante et grossie, ou au contraire, il y a un mouvement de retour arrière sur du naturel?
Alors, c'est un sujet un petit peu... c'est un sujet qui peut... je pense qu'il y a beaucoup d'incompréhension. C'est vrai qu'à l'époque, on utilisait à l'époque, donc il y a une centaine d'années, c'était des matières premières principalement naturelles. Fin 19e, il y a les molécules qui ont été découvertes. Et donc, et bien ça a permis d'avoir une palette beaucoup plus importante.
Bien sûr.
Grâce à ça, ça a permis d'avoir des parfums qui étaient beaucoup plus rémanents, d'avoir des parfums qui avaient une stabilité plus importante, une oxydation un petit peu moins élevée aussi. Et puis, contrairement aux idées reçues, c'est pas parce qu'on va utiliser des molécules d'origine de synthèse que le produit va être mauvais. Puisque je pars du principe que tout ce qu'on part de la nature, de toute façon, pour faire un ingrédient. Donc, si on réfléchit bien, tout est naturel.
Bien sûr.
À l'origine, on l'a transformé. Et donc, on obtient des molécules qui n'existent pas dans la nature, certaines. Et puis, il y en a d'autres. On va retrouver des molécules qui existent, mais par contre on va les faire par voie de synthèse parce que c'est moins coûteux que d'extraire des ingrédients qui viennent des huiles essentielles.
Oui, et puis avec des qualités olfactives meilleures aussi, d'après ce que tu dis, en termes de rémanence, etc. quoi. Okay.
Voilà, et de toute façon chaque huile essentielle ou chaque essence est un mélange de molécules, donc à partir de là la barrière est un petit peu on la met où ? Puisque c'est un mélange de molécules. Donc, ce qu'on va utiliser, on utilise aussi des molécules. Donc, on va mélanger des molécules entre elles, en fin de compte.
Ouais, bien sûr.
Alors oui, il y en a qui vont être d'origine naturelle, d'autres qui vont être d'origine, au départ naturelle, mais transformées. Donc, elles sont sont moins naturelles, puisqu'elles sont transformées. Donc, par essence, elles ne sont plus naturelles. Mais ça reste quand même... et ça permet d'avoir des ingrédients qui sont... qui tiennent mieux, qui sont plus stables. Et en fonction de ce qu'on veut faire à la fin, eh bien, on ne va pas avoir le même résultat en 100% naturel qu'avec un mélange mixte. Et pour moi, ce qui est important, c'est de faire un mélange qui soit harmonieux et qui corresponde au projet. Et donc, si mes clients viennent me voir et me disent « je veux absolument du 100% naturel », je dis « ok ». S'ils me disent « je veux du 100% naturel sans allergène », j'ai dit « écoutez, je préfère que vous alliez voir un collègue, un confrère ou une confrère pour le faire, parce que à l'heure actuelle, quasiment tous les naturels sont des allergènes. » Mm-hmm.
Oui, du coup, il y a trop de contraintes, quoi. Ok. Alors, on va essayer, j'aimerais bien comprendre, en fait, toutes les étapes pour la création d'un parfum. Du coup, évidemment, je pense que ça commence par un brief. Est-ce que tu confirmes que tu travailles toujours sur la base d'un brief? Et si oui, qu'est-ce qu'il comporte, ce brief-là? Avec quelle matière vous partez dans votre besace pour retourner dans votre atelier travailler un parfum, quoi?
Alors, on travaille... il y a plusieurs façons de travailler. Soit je me balade quelque part, j'ai envie, je sens quelque chose qui m'intéresse, je note, je note soit dans ma tête, hein, dans un coin de ma tête, en me disant « tiens, il y a ça que je voudrais refaire ». Comme ce week-end, par exemple, j'ai fait de la marmelade d'orange et donc il y avait une odeur qui se dégageait, que j'avais envie de refaire, et donc j'ai fait la formule, je me suis dit « tiens, il faut que je refasse ça ». Donc j'ai fait ça. C'est le petit exemple annexe. Soit on part d'une idée qu'on a et qu'on va refaire, soit les clients arrivent avec un cahier des charges bien précis avec l'utilisation, le dosage, une odeur olfactive, une ambiance qu'ils veulent recréer, éventuellement aussi maintenant de plus en plus une forme de bien-être ou alors découvrir une odeur ou voilà tout ça fait partie du cahier des charges. Moi, ce que j'aime bien aussi avoir, c'est un mood board, surtout quand ce sont des projets qui sont très créatifs. J'aime bien avoir des images, des textures ou des couleurs, parce que je m'en inspire vraiment beaucoup. Et à partir de ça, je vais mettre les ingrédients qui me parlent par rapport à ça pour recréer quelque chose.
Ok, j'avais même vu une vidéo où la personne était briefée sur, ça peut être un morceau de musique qui peut, voilà, et donc ça rejoint un peu quelle atmosphère, mais alors ce que je trouve improbable, c'est que on écoute toutes les deux le même morceau de musique ou on regarde toutes les deux le même mood board. Je pense que ça n'évoque pas du tout la même chose chez toi que chez moi. Donc on est vraiment dans l'interprétation personnelle, qui n'est du coup pas du tout forcément la même que celui de ton client, celui qui l'a constitué. Donc ça, c'est un jeu qui doit être assez compliqué. Est-ce que ça veut dire que les gens viennent à toi parce que finalement, ils connaissent ton univers et chaque parfumeur finalement a une patte et on va vers cet univers-là parce qu'on sait que cette personne-là va interpréter ce mood board de cette manière. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que ça veut dire que les gens viennent à toi ne te connaissent pas et donc il va y avoir des allers-retours d'interprétation. Ah, tu as interprété le mood board comme ça, tu es allé à gauche, ça c'est marrant, moi je serais bien partie à droite et donc j'imagine qu'il y a beaucoup d'allers-retours quoi. Tu vois comment ça se passe concrètement? Peut-être les deux sont
ça dépend. En fait, c'est ça. Les deux sont possibles. C'est ça. Et oui, il y a beaucoup de ça dépend chez nous. Donc, ouais. Il y a des gens qui vont aller voir un parfumeur parce qu'ils connaissent sa réputation. Ils ont vu qu'ils ont le ou la parfumeur a créé tel ou tel parfum. Et donc, on a chacun notre patte, on a chacun notre signature. Et c'est vrai que on va aller voir telle ou telle personne parce que on sait que pour ce projet-là, on va obtenir telle chose, enfin telle odeur. Mais ça peut être aussi des gens qu'on ne connaît pas. J'ai des clients qui viennent me voir parce que par pur hasard. Et là, c'est à moi justement de poser les bonnes questions et d'essayer de comprendre et d'interpréter ce qu'ils veulent exactement. Mais c'est rigolo.
Mais oui, c'est ça. C'est que c'est un peu le mystère. Bon, et donc, tu pars avec ce brief. Alors, ce brief-là, est-ce que jusqu'où il peut être contraignant, entre guillemets? Est-ce qu'on peut aller jusqu'à te dire c'est un parfum qui va être un parfum de luxe ou un parfum moyen de gamme? En gros, est-ce qu'il y a une contrainte budgétaire qui peut rentrer en ligne de compte? Auquel cas, j'imagine que tu n'utilises pas le même type d'essence, ce n'est pas la même complexité, tout ça. C'est le cas?
Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Le prix, c'est vrai que je n'en ai pas parlé, mais c'est hyper important, le prix. Okay. Le prix et puis la date à laquelle le parfum est demandé.
Et oui.
Comme tout créateur, s'il ne nous donne pas une date, c'est bon, bah, salut.
Rendez-vous dans 10 ans.
Quand je suis inspirée. Donc, voilà, oui, bien évidemment, le prix est important puisque un parfum qui va, qui va être mis après, soit sur alcool, soit sur shampoing, soit sur crème, à 50 euros, ne va pas du tout avoir la même structure qu'un parfum qu'on va vendre 250 euros. Quoi.
Et du coup, quand donc, tu repars avec ton brief sous les bras. Comment ça se passe après? Comment tu conçois? Quels sont les allers-retours avec le client? Jusqu'à combien d'essence il peut y avoir, tu vois, dans un parfum? Voilà, bon, tout. Comment ça se passe une fois que tu retournes dans ta tanière, quoi?
Alors déjà, je fais des essais chez moi. Et puis, si c'est une application particulière et que le client est OK pour m'en donner, eh bien, je vais tester dans son application pour avoir un rendu déjà des matières premières et qu'ensuite, je puisse lui présenter dans son application.
Qu'est-ce que tu appelles application, excuse-moi?
C'est une crème, une bougie. Bon, l'alcool, eh bien, heureusement, ça c'est j'en ai, donc ça va. Mais parfois, c'est des types d'alcool qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc, le client aime bien avoir son alcool. Donc, voilà. Mais c'est vrai que c'est quand on a la base du client, c'est quand même beaucoup plus facile pour tester derrière. Et puis, c'est tester, c'est-à-dire que quand j'ai une bougie, bah, je vais mettre mon concentré dans la bougie. Je vais attendre un certain temps pour que ça macère aussi. Et puis, je vais la faire brûler. Je vais voir comment ça sent aussi avant de la brûler. En brûlant, je vais regarder si la mèche, elle fait la bonne, elle a la bonne, le bon brûlage, etc. Si elle ne danse pas, si elle... Tout ça, donc s'il y a... Je vais le tester vraiment en condition comme le ferait le consommateur. Voilà. Donc ça, c'est déjà des étapes. Donc c'est ce que je fais chez moi. Ensuite, ben, j'ai un premier rendez-vous client où je lui envoie des échantillons. Ils font les mêmes choses. Eux, de leur côté, ils testent les applications. Et puis ensuite, ils reviennent vers moi en me disant, ben voilà, ça... celui-là, j'aime bien, celui-là, j'aime pas. Et j'essaie de comprendre ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas dans chaque fragrance. Et ensuite, je retravaille en fonction. Et puis, des fois, j'ai rien à retravailler parce que ça arrive.
Le miracle.
Là, ça fait plaisir. Ouais. Hein, c'est vrai, hein, ça arrive. Hein, des fois, je suis vraiment bien dessus et le client dit non, mais c'est bon, on ne change rien, ça me va, pas de problème. Donc ça, c'est chouette. Et puis sinon, bah, des fois, je peux faire... Je peux faire plein d'essais jusqu'à ce que le client soit satisfait. Quoi.
Ok. Jusqu'à combien d'essences il peut y avoir dans un parfum ? Tu vois, est-ce que c'est quelque chose... Parce que je n'ai même pas de notion, en fait.
Ça dépend, en fait. Alors, on parlera de matières premières plus que d'essences, puisque les essences, c'est vraiment ce qui est lié au naturel. Et on dira de matières premières, d'ingrédients. C'est très, très variable. Ça dépend du parfumeur. Il y a des parfumeurs qui font des formules très très courtes. On prend un exemple parce que j'ai pas travaillé, mais j'ai côtoyé de loin Michel Almerac qui utilise des très peu d'ingrédients. Il a une maîtrise absolument parfaite des matières premières et ses formules sont très courtes, très efficaces et absolument sublimes. Et puis, il y a d'autres parfumeurs qui vont rajouter, qui vont avoir des ingrédients, plein d'ingrédients, plein d'ingrédients.
Pour que je me rende compte, c'est quoi ? C'est une centaine d'ingrédients,
tu vois, ça peut être 50, ça peut être 50, okay. 60, 70 ingrédients.
Ouais, donc c'est énorme. Ouais.
C'est énorme. Et en fait, il y a certains ingrédients, j'ai fait les essais en les enlevant, est-ce que ça va changer ? Et donc, en fait, ça permet de voir que celui-ci, je peux m'en passer. Qu'est-ce que ça va apporter si je m'en passe ? Et donc maintenant, je fais des formules qui sont beaucoup plus courtes et où on voit plus les différentes facettes des matières premières.
Tout à l'heure, tu disais, tu parlais des notes de tête, de cœur et de fond. Tu veux bien nous expliquer justement ? Parce que j'ai l'impression, est-ce que ça, c'est quelque chose, ces trois notes sont forcément toujours présentes dans un parfum ou pas ? Et à quoi elles correspondent ?
Les notes de tête, c'est vraiment les notes de départ. Et c'est celles qui sont les plus volatiles. Donc, elles sont en général de quand on va tremper une mouillette. Hein. Les mouillettes, c'est des petits morceaux, des petites bandes de papier qui vont nous servir à évaluer les parfums. Et c'est vraiment des matières premières qui vont, des matières premières ou des parfums qui vont être, qui vont pas rester très longtemps en fait sur la mouillette, donc on va dire de 0 à 1 heure à peu près hein. Après en cœur, donc c'est souvent tout ce qui va être des agrumes vont vraiment être des notes de tête, on va avoir quelques notes vertes, on va avoir aussi mettre quelques notes fruitées, des notes épicées, mais après elles peuvent aussi s'étirer jusque dans le cœur, parce que certains vont être beaucoup plus présents en cœur. Et en cœur, c'est vraiment des ingrédients qui vont être de à peu près 30 minutes, 1 heure à 2-3 heures. Et donc, dans ces notes de cœur, on va principalement retrouver les notes florales, on va retrouver des notes épicées. On peut commencer à trouver des notes boisées, mais vraiment des notes boisées très, très simples. Hein. Et puis ensuite, on a les notes de fond. Et les notes de fond, c'est vraiment celles qui vont rester le plus longtemps, c'est celles qui vont rester sur la peau. Et là, on va avoir les notes boisées, des notes ambrées, les notes sucrées, les notes musquées, les notes animales, les cuirs, C'est ce qui va faire que les notes de fond, c'est vraiment ce qui reste sur la peau, sur les mouillettes, en cosmétique, c'est pareil. C'est vraiment ce qui va rester. Et en fait, on le forme un triangle, c'est une pyramide. On décrit souvent les parfums sous forme de pyramide, avec ces trois types de notes.
Génial. Et est-ce qu'il y a une formule magique qui fait qu'il faut 30% tu vois, de notes de tête, tu vois, est-ce qu'il y a un équilibre à trouver pour qu'un parfum fonctionne?
Oui et non, mais il n'y a pas de formule magique. Ouais, c'est okay. Vraiment en fonction de ce qu'on veut faire.
Ouais.
Une eau de Cologne, c'est un mélange d'agrumes et de notes aromatiques. Et ben, on sait que ça ne va pas durer 100 ans.
Ouais,
c'est okay. Pas possible. De par sa composition, si on n'utilise que des essences d'agrumes et des huiles essentielles style lavande, sauge, romarin, bah, forcément que au bout de 2 heures, on sentira plus grand-chose. Et c'est normal.
Oui, oui. Voire même ton odeur de parfum. Il y a toujours une mécanique que j'ai jamais trop compris. C'est tu choisis un parfum parce que tu l'adores, mais au bout d'un certain temps que tu le portes, tu ne le sens plus du tout. Enfin, moi, je le sens plus du tout. Et du coup, en fait, tu fais profiter les autres de ton parfum que t'aimes tant. Mais toi-même, tu n'en profites plus tant que ça, en fait. Je sais pas si c'est que moi qui ressens ça, mais il y a un mood.
Enfin, voilà, beaucoup de gens.
Ouais, beaucoup de gens, beaucoup je pense. Gens,
parce qu'en fait, quand on sent, on a notre odeur corporelle et notre environnement.
Ouais.
Qui fait partie de ce qu'on sent. Et c'est vrai qu'à force d'utiliser toujours la même chose, on en prend l'habitude et on finit par plus le sentir. Et c'est pour ça quand j'ai les étudiants j'hésite pas à leur dire, surtout sentez ailleurs que dans la pièce où vous avez toujours l'habitude de sentir. Déjà, sentir dans la pièce, dans l'atelier où il y a l'orgue à parfum avec toutes les matières premières, c'est un petit peu déjà bien, bien saturé en odeur. Donc, même s'il y a des aérations, etc., c'est vaut mieux aller dans un endroit qui est un peu plus neutre, où la température est modérée.
Et j'imagine en plus que ton odorat évolue en fonction de l'heure de la journée, de ton niveau de saturation aussi, parce que quand tu, je sais pas, au bout d'un moment, j'imagine quand tu as trop senti, c'est quand même compliqué. Donc tu parles de ton environnement, je pense aussi de l'âge aussi. Est-ce que notre odorat évolue en fonction de l'avancée des... Je pense que oui, parce que le goût évolue, tu vois, on n'a pas du tout le même goût enfant qu'un truc qu'on détestait en goût parce qu'il nous paraissait très fort quand on était enfant. Tout d'un coup, passer à l'âge adulte, ça nous paraît beaucoup plus simple à ingérer. Tu vois, donc j'imagine que l'odorat, c'est la même chose.
Pour moi, oui. Et même au niveau du cycle, puisque je suis une femme, donc même au niveau du cycle, je trouve que l'odeur n'est pas la même.
Et ouais, ok. Donc ça veut dire qu'il faut s'organiser, enfin, il faut anticiper ces éléments pour en avoir conscience, quoi.
Pas nécessairement, pas nécessairement. C'est, j'en ai absolument pas, j'en fais pas, je l'ai remarqué à un moment donné, et puis voilà.
Ok, et petite question, est-ce que tu es comme un compositeur de musique, c'est-à-dire que tu sais avant même de l'écrire sur une partition ou avant même de le voir jouer, tu l'as en tête, le rendu. Est-ce que tu arrives à te projeter dans ce rendu final?
Alors, il y a certains moments, oui. C'est-à-dire que j'ai l'idée générale de ce que je veux faire, de ce que ça va sentir. Et en utilisant les ingrédients que je vais coucher sur le papier, vont me donner cet effet. Et puis après, c'est à ce moment-là où je vais dire non, finalement, là, j'ai peut-être mis un peu trop de cet ingrédient, donc je vais diminuer. Là, cette facette-là, j'aimerais bien plutôt la pousser, donc je vais augmenter cette matière-là. Ah, ou il me manque une note animale, donc je vais rajouter un petit côté. Alors, quand je dis animal, c'est que des matières premières qui ont une odeur cuirée, d'animal, mais il n'y a pas de...
Est-ce que dans ton travail de parfumeur, et j'imagine que c'est le cas, tu as aussi un gros boulot d'approvisionnement, tu vois, d'aller chercher la bonne essence ou le bon ingrédient, parce que comment tu le trouves, c'est quoi les intermédiaires, les personnes avec qui tu travailles, justement, je pense qu'il y a des fabricants d'ingrédients, j'emploie sûrement pas les bons termes, mais est-ce que ça, c'est une grosse partie du boulot quand même de nez?
Alors, au sein des entreprises, j'ai la chance d'avoir un partenaire qui fait tout ce qui est sourcing, et donc j'utilise tout son codex. Et donc, c'est plus eux qui vont faire cette démarche de recherche d'ingrédients. Par contre, si j'ai vraiment quelque chose qui m'intéresse, eh bien, je vais aller voir en disant, bah voilà, j'aimerais qu'on utilise ça. Est-ce que tu es OK pour le mettre au codex? Parce que vraiment, je trouve que ça apporte quelque chose et que j'aimerais vraiment l'utiliser. Je pense que ça pourrait être intéressant.
D'accord, OK. Mais tu passes par ces intermédiaires-là qui vont, eux, dont c'est le métier, quoi, en fait, d'aller faire l'approvisionnement. OK. Alors, on a parlé des allers-retours. Une fois que le client a choisi, ça peut être la première fois, bingo, pof. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça veut dire que ton travail s'arrête là? Et tu ne vois pas forcément le reste. Est-ce qu'il y a des étapes supplémentaires dans ton métier? Est-ce que tu veux bien nous les expliquer si c'est le cas?
Alors, une fois que le parfum il est choisi, sélectionné et qu'il correspond aux réglementations en vigueur, qu'il n'y a pas de déclinaison particulière à faire dans d'autres applications, mon travail s'arrête, okay. En théorie. Vu que je suis à mon compte, toute seule, ou presque, puisque j'ai quand même la chance d'avoir du monde, d'avoir deux jeunes filles avec moi en ce moment, ça ne s'arrête pas là, pas réellement. Mais le travail de parfumeur, de créatif, s'arrête à ce moment-là.
OK. Et alors, petite question, est-ce que vous signez pas, mais pas officiellement, enfin, tu vois, on n'a pas forcément le nom du parfumeur sur le nom du parfum, mais à l'inverse, ça officieusement, est-ce que vous êtes, en gros, ma question, c'est est-ce que vous êtes propriétaire, tu vois, de cette formule? Comment ça se passe concrètement? Est-ce que vous êtes le créatif, mais après, l'œuvre ne vous appartient plus, tu vois?
Tout dépend des sociétés, des contrats de travail qu'il y a avec les entreprises.
Okay.
De toute façon, on ne peut pas enlever la formule du cerveau du parfumeur. Il y a les contrats pour moi, la propriété intellectuelle de la formule appartient à ma société. Mais j'insiste sur le fait que chaque création validée et vendue, je la réserve au client pour laquelle je l'ai créée.
Et oui, il y a une exclusivité.
Je ne vais pas la revendre.
Eh oui.
Il y a une exclusivité.
Ouais. OK.
Mais il y a certaines entreprises où il n'y a pas cette exclusivité-là. Donc, mais moi, je tiens vraiment à dire que je garde cette exclusivité, c'est-à-dire que cette formule-là est réservée pour ce client-là.
Bien sûr.
On ne peut pas la retrouver chez quelqu'un d'autre.
Dans un autre parfum ou un autre shampoing ou autre chose, quoi.
Voilà, exactement.
Yes, OK, exactement. Ça, je trouve ça super intéressant. OK. Financièrement, et l'idée, ce n'est pas de rentrer dans les chiffres, hein, c'est juste de comprendre comment vous êtes rémunéré. Vous vendez cette formule, en fait, ou bien est-ce qu'il y a une notion, tu sais, comme un artiste, un photographe, il a des commissions, en fait, sur l'exploitation. Plus une pub va être utilisée sur un grand média, un grand nombre de fois, en France ou à l'international, le photographe ne va pas toucher les mêmes honoraires. Tu vois, ça va être relatif à l'exploitation du produit. Est-ce que c'est des mécaniques comme ça aussi, en tant que parfumeur, ou bien c'est tu vends ta toile? Et si elle est exposée dans un musée ou dans un salon ou dans une cave, c'est pareil, tu vois?
Tout dépend en fait de la société, la structure et pareil des contrats qu'on fait. Moi, je demande un forfait création. Puisque okay. quand je me concentre sur un projet, eh bien, je travaille sur ce projet et je travaille vraiment là-dessus. Et c'est comme ça que je me rémunère une partie. Ensuite, une fois que ça passe en production, je me rémunère aussi sur la partie du concentré. Donc, à chaque fois qu'il y a un réassort, à chaque fois qu'il y a une commande, eh bien, forcément, je récupère aussi dessus.
OK, donc c'était pas bête. Hein. Enfin, ce parallèle avec le photographe, effectivement, existe, ce qui paraît logique, hein, parce que forcément, un parfum, OK. Alors, ton boulot repose sur ta capacité de bien sentir. Pour moi, je te vois un peu comme... Alors, soit un sommelier qui va s'exercer toute sa vie à ressentir des nouvelles odeurs, voilà. Soit même presque un sportif de haut niveau qui va vachement s'entraîner. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que dans ton boulot, il y a forcément une part essentielle d'entraînement, comme un sportif? C'est le cas?
Oui.
Et ça se concrétise comment? Genre, tu te fais des séances?
Je me fais des séances d'olfaction des matières premières.
Okay.
Et j'ai eu le Covid en décembre l'année dernière avec anosmie aiguë pendant 10 jours.
Oh.
Donc, j'ai un peu flippé quand même.
Le cauchemar, mais oui.
Eh bien, je réapprends à sentir les matières premières. Donc, bien évidemment, la mémoire est là. Et ce que j'adore, c'est que je trouve d'autres facettes aux matières premières. Donc, je trouve ça extra, en fait. Parce que je me dis, ah bah tiens, j'avais pas senti ça avant dans celle-là. Ah bah tiens, bah non, j'avais pas senti ça avant. Et donc, j'ai l'odeur des matières premières que je connais. C'est-à-dire que je vais pouvoir me dire, bah ça, je sais que c'est, je sais pas, je veux dire, c'est du romarin, c'est du bois de cèdre de Virginie, ou alors ça, c'est du bois de cèdre Atlas, etc. Je vais pouvoir le dire. Et puis, je vais à l'intérieur, je vais dire, tiens, il y a cette facette-là que j'avais pas remarquée. Et c'est intéressant. Et si je l'utilisais, cette facette, pour en faire quelque chose. Et c'est en ça que c'est intéressant, puisque comme on vieillit,
exactement,
aussi, hein, eh bien, l'odorat se transforme aussi en vieillissant. Et je trouve que c'est indispensable de sentir régulièrement les matières premières.
Ouais. Alors justement, par rapport à l'âge, l'odorat... Moi, tu vois, l'ouïe, par exemple, on dit toujours qu'on perd un peu d'ouïe et les enfants sont capables d'entendre des sons hyper aigus que nous, on n'entend plus du tout, par exemple. Est-ce qu'on peut parler d'enrichissement de ton odorat ou, à un moment donné, il y a une perte de sensibilité, tu vois, évidemment, à des âges plus avancés, mais est-ce que, ma question derrière ça, c'est est-ce qu'on doit prendre sa retraite pas du tout à 64 ans, tu vois, ou c'est pas le débat ?
Je connais des parfumeurs qui s'arrêteront jamais. J'ai dans mes connaissances, je connais un parfumeur qui a plus de 80 ans et qui continue à travailler.
Ouais, ok. Donc, c'est juste que tu fais différemment parce que ton odorat a évolué.
Et l'odorat a évolué, exactement.
Ouais. Et alors, comme un sportif, est-ce que tu fais super gaffe à l'alimentation pour pas manger trop épicé? Je sais pas, tu vois, forbidden les fumeurs. Est-ce que ça implique une hygiène de vie super stricte ?
Je suis un être humain, donc je vis. Donc, hier soir, j'ai bu du champagne, j'ai mangé du saucisson, du fromage, voilà, et je ne m'empêche pas de vivre. Alors, par contre, bon, je suis hyper sensible au niveau de la cigarette, donc ça, c'est vraiment un truc que je n'apprécie pas du tout. Cependant, il existe des parfumeurs qui fument. J'ai côtoyé des parfumeurs qui fumaient. Il y a notamment Maurice Roussel qui me disait qu'il était un très très gros fumeur avant et qui, le jour où il avait arrêté de fumer, il a ressenti en fait toutes les matières premières. Il était obligé en fait, puisque sur sa peau il y avait l'odeur de cigarette, et donc il était obligé de ressentir les matières premières avec un environnement différent, puisqu'il n'y avait plus l'odeur de tabac.
Mais tous ces repères avaient changé, quoi.
En gros, oui, puisqu'il y a une ligne de base sur le. Ça paraît logique, tout simplement. Ouais. La mémoire est là, la matière première est là, mais c'est juste que le niveau est passé. Il y avait une espèce de filtre
c'est dingue,
de
quoi.
Tabac dessus.
Ok. Petite question perso, quand. Je ne sais pas dire et je ne te poserai pas la question de quel parfum tu as signé. Parce que je crois que vous avez des accords de confidentialité, si tu me confirmes. C'est pas frustrant de ne pas pouvoir crâner?
Alors, ça peut être très frustrant.
Ouais.
Et puis, en même temps, je me dis que ça fait partie du jeu. Et voilà. Alors, certes, il y a certaines choses, je suis super fière, et je ne peux pas le dire. Donc, c'est... Voilà, ça m'embête, mais bon, ça fait partie du jeu. Il y aura bien, à un moment donné, quelque chose. Et puis, si ça ne doit pas arriver, ça n'arrivera pas. Et puis, c'est tout.
Ouais, ok.
C'est comme ça.
Ok. Et est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas...
L'ego qui parle, en fait, je pense.
Ah ouais, oui, mais enfin, en même temps, c'est normal. Enfin, je veux dire, tu peins une toile, tu as envie qu'elle soit vue et qu'elle plaise. T'as pas envie qu'on fasse des compliments à côté de toi en disant « Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle cette toile, j'aimerais bien rencontrer la personne qui l'a fait. C'est moi. Oh, je suis là.
C'est moi, mais en fait, je peux pas le dire.
Ouais, c'est ça. Bon, c'est pas de l'ego mal placé, hein. C'est juste qu'on est très fiers de ce qu'on produit, c'est normal. Et ça donne pas envie à un moment donné se dire, et forcément dans la vie d'un parfumeur, il y a un jour où tu signes un parfum. Tu vois, tu vas jusqu'au bout en te disant « Un jour, j'aurai mon bébé à moi et ça sera qu'à moi. »
Je suis en cours, en fait.
Ah. Énorme. Ah oui. Ah, donc tu confirmes. Forcément, à un moment donné, t'as envie, quoi.
Ça, en fait, depuis toujours, je voulais avoir ma gamme de parfums. Et donc, et là, je suis en train de finaliser. Les parfums sont prêts.
Yes.
Et il faut juste, alors bien évidemment, avec les changements de législation qui apparaissent tous les 6 mois, à chaque fois, il faut que je rechange la formule. Mais à un moment donné, enfin, je m'arrête quand même. Perfectionnisme, la peur de ne pas y aller, je ne sais pas. Mais oui, c'est prêt. Et là, on est encore sur les dernières touches packaging en espérant que ça va fonctionner. Et puis voilà.
Là, je te le souhaite aussi, tu nous le diras.
C'est mes bébés. Bah, la marque, je peux la dire, de toute façon, la marque est déposée en France. Donc,
d'accord.
Ça s'appelle l'horloge de Flore.
L'horloge de Flore, donc, ok. Là, tu es en train d'apprendre. Toutes les phases suivantes, les phases aval qui sont...
C'est ça. Et c'est y a vraiment du taf.
Ouais. Ah ouais.
Moi, je trouve que je suis vraiment libre de ma créativité et c'est une forme d'expression. C'est comme si j'allais peindre un tableau. Bien évidemment qu'il y aura des critiques. Il y a des gens qui vont aimer, il y a des gens qui ne vont pas aimer. Mais ce n'est pas grave. C'est ce que j'ai voulu exprimer. C'est mon expression. C'est ça que j'ai voulu faire.
Tu n'es plus sous la contrainte, donc, si entre guillemets, d'un brief.
Mieux, si ça ne plaît pas, eh bien, voilà, j'ai plus la contrainte du brief. C'est vraiment ce que j'ai voulu en faire et là, j'ai voulu aller.
Oui, bien sûr. Bah, ça, je trouve que ça clôt bien toute la palette d'expériences que tu peux avoir en tant que nez. Quoi. C'est-à-dire que tu vas jusqu'à ta propre vision de ce que tu veux apporter. Quoi.
Okay. Avec, bien évidemment, le stress de « Ah, mais qu'est-ce qu'on va dire ?» C'est là, bah oui, mais c'est à moi aussi de prendre le recul et de me dire bah, « C'est ce que j'ai voulu faire. » Je suis consciente qu'il y a des gens qui ne vont pas aimer et il y a des gens qui vont aimer. Voilà, c'est
bien comme sûr. Ça. Ben là, on s'expose, forcément.
C'est ça. Et c'est ça qui est le... Comme je suis quelqu'un qui est assez discrète, c'est ça qui est un petit peu paradoxal avec mon désir, justement, d'être sur le devant
ouais.
Et de montrer et en même temps de me dire « Ah ben oui, mais bon.
» Je comprends tout à fait. T'as pas idée comme je comprends. Mais c'est tout à fait vrai, quoi. Mais en même temps, c'est une étape qui est géniale dans une vie, quoi. Quoi qu'il arrive, quoi.
Ouais, mais on verra.
Alors, t'en avais franchi une autre d'étape, c'est t'as travaillé dans des entreprises pendant, je crois, une dizaine d'années, 15 ans, c'est ça, à peu près
Oui, une bonne quinzaine d'années.
Avant de te mettre à ton compte, c'est ça. Qu'est-ce que ça a changé, justement? Pourquoi t'as passé ce cap, déjà, ce premier cap et qu'est-ce que ça t'a apporté dans ton métier de nez
Alors, pourquoi j'ai décidé bah, parce que j'avais depuis très, 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 très longtemps, certainement petite ou on va dire jeune adulte, j'avais décidé qu'à 40 ans, j'aurais ma boîte.
Ah oui.
Oui, un petit peu déterminée, la fille.
Tu m'étonnes. C'est tes parents que j'aurais dû t'interroger, en fait. Pour connaître ton caractère. Ça ne devait pas être facile tous les jours, quand même.
C'est toujours pas facile tous les jours. Et donc, voilà, donc à 40 ans, il fallait que je fasse quelque chose. Et puis, j'étais dans une société qui est très bien, même encore à l'heure actuelle. Et en fait, j'avais fait le tour de ce que je voulais y faire.
Ouais.
Et j'avais besoin d'être libre de créer à des horaires différents que des horaires de bureau, en fait. Puisque bah, il fallait être là sur place au moment et que je conçois tout à fait et que je respecte.
Ah, tu vois, tu touches un truc là qui est sur s'écouter, parce que vous êtes quand même sur un métier où tu as part d'instinct, d'intuition, de sensation, et elle doit être majeure. C'est aussi presque un organe que tu dois vachement développer pour être compétente dans ton métier. Comment, on en parlait en off, c'est pour, avant de démarrer l'interview, mais justement, est-ce que c'est quelque chose que tu as développé avec les âges? Comment tu fais pour justement rester toujours hyper connecté à cet instinct et cette intuition?
Je fais de la méditation.
Ouais.
Donc, voilà, je dis quand... Alors, c'est soit quand je suis en mode panique parce que j'arrive pas à trouver des idées, etc. J'essaie de me recentrer. Je vais me mettre une méditation guidée qui m'aide à me recentrer au niveau de ma respiration, etc. Et donc, c'est comme ça que j'avance. C'est comme ça que j'avance. Et puis, j'aime beaucoup aussi aller dans la nature pour... Mais pour prendre toutes ces bonnes ondes de l'environnement sans bruit humain.
Ok, écoute, je te propose de passer à la conclusion et aux toutes dernières questions, si ça te convient.
Très bien.
Alors, est-ce que tu as une anecdote, tu vois, insolite, drôle, émouvante, enfin, quelque chose qui t'a marqué dans le cadre de ton métier dont tu voudrais nous parler ?
Alors, bah, récemment, c'est très émouvant en fait. J'ai une personne, une jeune femme, qui m'a contactée pour offrir un parfum sur mesure à sa meilleure amie, qui est sa sœur de cœur. Si elle écoute, elle se reconnaîtra. Et donc, j'ai trouvé ça vraiment très, très chouette. Donc, je lui ai envoyé mon petit questionnaire qui est assez poussé. Et quand elle a vu les questions, elle m'a dit « Oh là là, mais c'est très personnel, on rentre vraiment dans l'intime, etc. » Je lui ai dit « Oui, mais j'ai besoin de savoir un petit peu plus pour adapter en fait ce que je vais pouvoir faire, puisque ce n'est pas pour vous, c'est pour elle. » Donc, j'ai besoin d'en savoir un peu plus sur votre relation et sur pourquoi vous voulez offrir ce présent, etc. Et donc, elle a répondu au questionnaire, elle m'a envoyé des photos, des images. Donc, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Elle a joué le jeu et c'était un exercice assez difficile, visiblement, pour elle. Et elle a joué le jeu et je le remercie parce que ça a apporté quelque chose vraiment au projet. Et donc, j'ai commencé à travailler et puis... fin d'année dernière, elles sont venues ici toutes les deux et pour me rencontrer déjà. Donc j'étais super contente de les voir ensemble, puisqu'on avait décidé à un moment donné que il faudrait tenir au courant son amie parce que comme c'est un parfum pour elle, il fallait vraiment qu'elle se l'approprie et elle ne voulait pas prendre le risque qu'elle soit déçue. Donc elle préférait lui dire franchement c'était ce qu'elle lui avait offert et voilà. Et elles sont venues ici et puis dans la discussion, donc on sentait c'est un parfum autour du patchouli, une note de cire en caustique. Alors c'est un petit peu c'est un parfum de peau, hein, donc faut vraiment se mettre dans l'idée ça. Et puis dans la discussion, elle me dit bah voilà, je voudrais, il est super, mais il me manque quelque chose. Et en fait, ce que j'ai envie que ça sente, c'est quand je rentrais chez ma grand-mère. J'aimerais qu'il y ait cette odeur de gâteau breton, de cire, parce que visiblement elle n'avait que des meubles en bois, et cette note de patchouli qu'elle utilisait, etc. Et puis il manquait des ingrédients, donc je suis allée tremper mes petites mouillettes de deux, trois matières premières, et je lui ai fait mettre en fait sous son nez, et là elle s'est arrêtée net et j'ai vu son visage se transformer avec des larmes qui ont commencé à apparaître dans ses yeux. Et là, j'ai gagné. Elle me dit « Oh là là, mais j'y suis, mais c'est ça. » Elle était très, très émue et j'étais super contente en fait. Parce que j'ai réussi à faire donc avec ça. Donc bien sûr, après, j'ai refait une formule. Une fois qu'elle était partie, j'ai refait une formule et je lui ai envoyé. Elle m'a dit, c'est exactement ça que je voulais. Merci beaucoup. Donc je lui ai dit, testez-le bien sur la peau parce qu'il y a quand même une note mielée, il y a quand même une note, donc il y a du patchouli, il y a cette note un peu beurrée. Donc c'est voilà, c'était pas... mais le mélange est très harmonieux et sur la peau, c'est divin, quoi.
C'est génial. Ouais, ça procure une émotion. J'avais la chair de poule, hein, quand tu me racontais. Est-ce que c'est ça, cette joie et cette fierté que tu as du moment précis où tu vois cette émotion que tu as réussi à provoquer?
Et c'est pour ça que j'adore voir les clients, en fait.
Ouais.
Parce que et c'est aussi pour ça que d'être à mon compte, c'est important, puisque je suis vraiment en direct. Je suis en face à face. J'ai plus d'intermédiaires qui vont couper le message et qui vont interpréter en fonction de ce que le client va dire. Et je conçois qu'il en faille. Hein, je crache pas dans la soupe, rien du tout. C'est vraiment ce que j'aime. Et j'ai besoin de ça. Ça me nourrit, en fait. J'ai besoin de cette relation de proximité avec les clients.
Ok. À l'inverse, tu dirais que quelles sont les difficultés pour toi qu'il est important de connaître quand, et donc ça va rejoindre un peu les conseils que tu peux apporter à de futurs parfumeurs. Voilà, quelles sont les difficultés qu'il ne faut pas négliger dans ce métier-là ?
C'est un milieu qui est assez fermé. Il y a de plus en plus de demandes et de personnes qui veulent en faire partie parce que voilà, c'est un métier qui fait rêver, en fait, parce qu'on voit les grands parfums qui sont Bien lancés. Sûr. Donc forcément, ça fait rêver. Puisqu'on vend du rêve, c'est le but du jeu, c'est de vendre du rêve. Alors certes, on va peut-être un petit peu moins rêver quand on va créer un parfum pour nettoyer le sol que quoique. Et on peut très bien avoir une odeur qui nous emmène, qui nous transporte à Tahiti, à Bali, ou alors, en Amérique du Sud, juste parce qu'on va utiliser un nettoyant sol. Mm. Voilà, c'est recréer une atmosphère différente. Donc oui, on transporte les gens, on fait voyager les gens, en fait, avec les odeurs.
Ok, mais compliqué parce que concurrence, quoi, finalement, parce que c'est un cercle qui est quand même assez fermé, quoi.
C'est voilà, et il y a vraiment beaucoup de demandes, donc c'est la persévérance, c'est vraiment s'accrocher, et puis quand on a un rêve, il faut y aller, quoi.
Ouais. Et les qualités, justement.
Faut se donner les moyens.
Faut se donner les moyens. Donc ça, c'est le conseil, effectivement, que tu pourrais donner, c'est la persévérance et se donner les moyens. Est-ce que, pour toi, il y a aussi des qualités qui sont hyper importantes à développer pour être un bon parfumeur ?
Je pense persévérance, curiosité, créativité, humilité aussi, parce qu'il peut y avoir beaucoup de... C'est très difficile de présenter un parfum et de se le faire rejeter.
Ouais.
C'est très, très difficile de se dire « j'ai mis toute mon âme, tout mon cœur, ça fait des mois que je travaille dessus et à la fin, bah non, c'est pas le vôtre qu'on va prendre. »
Ouais.
C'est dur, c'est très dur. C'est très, très dur.
Et puis, on y met tellement de soi que c'est toi qu'on juge, quoi.
Je pense que c'est, à mon sens, la partie la plus difficile à accepter quand c'est le refus du parfum.
OK. Alors, souvent, je pose la question de comment... quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui cherchent à se reconvertir, par exemple, ou qui sont en quête d'orientation ? Bon... Toi, ça t'est tombé dessus comme ça. Donc, tu ne vas pas pouvoir nous dire, quand j'ai voulu me reconvertir, j'ai vécu ça, voilà le bon conseil. Néanmoins, toi, tu as eu cette chance, mais souvent les chances, on les provoque, de découvrir cette vocation assez tôt et puis de la maintenir aussi en vie longtemps. Est-ce que par rapport à ça, tu te dis, tu auras un conseil à donner aux personnes, tu vois, soit des étudiants, soit des gens de notre âge qui veulent se reconvertir ?
Alors, il y a heureusement dans la parfumerie, il y a plein de parfumeurs qui n'ont pas un parcours chimique, de chimie. Ça permet de se donner espoir quand même en se disant, tiens, si j'ai une certaine sensibilité olfactive, si je travaille là-dessus, il y a suffisamment d'écoles pour m'apprendre à mélanger. À mon sens, c'est mieux de se faire guider que de le faire tout seul dans son coin, parce que on utilise que ce soit des molécules naturelles ou synthétiques, ça reste des produits chimiques. Hein, donc, il y a quand même un certain danger à faire ça dans sa cuisine tout seul. Vaut mieux être conscient des matières qu'on utilise et donc commencer peut-être à se. Il y a plein d'organismes de formation. Au moins pour apprendre les bases s'il y a besoin d'une reconversion et savoir si c'est vraiment ça qui va nous plaire. Et puis commencer à se faire la main comme ça, si c'est vraiment ça qui plaît, pourquoi pas. Ça demande quand même beaucoup de rigueur et de précision, puisque c'est quand même quelque chose de... Parfois, on va changer juste une toute petite quantité et ça va vraiment faire la différence. Donc, et puis être rigoureux, parce que pour moi, bien sûr, c'est à la fois être rigoureux et avoir une partie de folie. parce que la rigueur, c'est oui, je vais faire ma formule, il va falloir qu'elle tombe sur 1000 parce que c'est plus facile, je vais mettre des quantités, etc. Et la folie de me dire, ah, tiens, je vais utiliser cette matière-là en overdose parce que c'est ça que je veux recréer. Ça, c'est la partie de folie.
Mais où je vais associer deux matières que personne n'a jamais associées, parce qu'on a toujours dit qu'elles s'opposaient. Quoi.
Mmh. Yes. Voilà, c'est okay, ça. Okay.
Bon, merci pour tous ces conseils. Si on veut te contacter ou te suivre, ou, comment on fait?
Alors, j'ai mon site internet, c'est www.hfperfumes.fr. Donc, voilà, j'ai sur Instagram,
okay,
sur Facebook, il y a tout ce qu'il faut. J'ai... une jeune femme qui travaille avec moi, qui est responsable marketing et communication, qui s'éclate à faire des publications. Et voilà, donc c'est pareil, ça me pousse aussi à me montrer un peu plus depuis qu'elle est là.
Ouais, ton compte Insta, d'ailleurs, est très joli. Les photos sont très belles, le mur est très beau.
Merci, ouais. Merci. Bah, c'est Elisa qui fait ça.
Bah, tu pourras lui dire, parce qu'effectivement, je le trouve très harmonieux et très, très inspirant, quoi. Donc...
Ouais.
Ok. Écoute, merci pour tout, Hélène. Dernière mission, c'est que je vais te demander de me lancer le défi de partir à la découverte d'un autre métier. Est-ce que tu as pu y réfléchir?
Alors, j'y ai réfléchi. J'en ai, voilà, il y en a quatre que j'ai notées. Et je ne sais pas si je vais dire le bon mot correctement.
Okay.
Donc, je te dis les quatre et puis tu me dis si, ce qui t'inspire le plus, peut-être.
Ah bah, ou les quatre, hein, je pourrais prendre les quatre, hein, tu sais, c'est pas grave.
Voilà. Donc, j'ai pensé à un agriculteur dans les plantes à parfum parce que ça fait partie de mon domaine.
Ouais, clair.
À l'heure actuelle, il y a quand même beaucoup de femmes qui font ce métier qui est difficile puisque ça reste un métier d'agriculteur. Donc, voilà. Un coach en écriture.
Ok.
Voilà.
Pas mal du tout, j'en connais. Ok.
Moi aussi, j'ai quelqu'un qui m'accompagne sur quelque chose. Donc,
sur là, quelque chose.
voilà, c'est pour ça que j'y pensais. Et comme c'est quelqu'un qui est très gentil, voilà, ça m'a fait penser à lui.
Yes, très bien.
Un designer graphiste.
Ouais,
pareil, okay. Parce que bah, ça peut être... Alors, bien évidemment, c'est parce que dans mon domaine, j'en côtoie. Et puis, un autre, c'est un thanatopracteur.
Ah oui, alors attends.
Rien à voir.
On en a déjà
parlé. Je crois que c'est comme ça.
Thanatopracteur.
Oui, c'est ça, thanatopracteur.
Et je sais même pas ce que c'est. Mais je connais le nom, mais je ne sais pas ce que c'est. Tu sais
c'est les gens qui préparent...
c'est ça.
finir sur cette touche-là, qui préparent au dernier voyage.
Ouais, c'est ça, c'est ceux qui embaument les corps.
Qui les préparent.
Ok. Ouais, mais super comme métier. Et en plus, c'est un métier...
Je trouve ça tellement peu commun,
ouais,
que j'en discutais avec mes copines hier soir, qui sont parfumeurs. Hein. Et c'est vrai, je disais, il faut que je trouve des idées. Donc, j'avais les trois là. Et puis là, on a dit, mais ouais, mais moi, je me suis toujours intéressée à ça. Ça peut être un challenge.
Mais je suis entièrement d'accord.
Par contre, je ne peux pas donner de nom.
Tous les métiers qui vont être autour des pompes funèbres, c'est quand même des métiers assez particuliers. Enfin, je me dis, ça a de telles implications sur toi. Enfin, tu peux pas aller au boulot comme nous on va en tant que cadre. Tu vois, c'est pas possible. C'est trop impliquant. Tu vis des émotions qui sont trop fortes. Du coup, je trouve que ces gens-là, ils ont forcément un regard sur la vie qui est hyper enrichissant. Donc top.
Comme un médecin légiste, hein, c'est pareil.
J'ai interrogé un médecin légiste. C'était une interview super riche parce que oui, comment veux-tu reprendre le métro le soir tranquillou alors que t'as vu quelqu'un sur ta table qui est mort dans un métro, tu vois. Donc, c'est une telle implication, c'est vachement... C'était un super interview d'ailleurs avec Terra. Ok, génial, je prends les quatre.
Voilà.
Je dis pas que je vais les faire la semaine prochaine, mais je les prends et je les ai bien en tête, donc avec grand plaisir. Ok, merci pour tout, Hélène.
Ouais, je t'en prie, avec plaisir, c'était vraiment super.
C'était un super grand plaisir de t'avoir et donc je te dis à
très merci vite. À toi. Merci pour tes questions, c'était, voilà, c'est, j'ai fait ça, j'ai essayé de faire ça avec le cœur, donc j'espère que ça se sera ressenti.
c'est sûr et certain. Bon, à très vite, Hélène.
À très vite, Julie. Merci encore. Au revoir.
J'espère sincèrement que cet épisode t'aura autant passionné que moi. Alors pour rentrer en contact et découvrir les réalisations de Hélène, rendez-vous soit sur son compte Instagram hfperfumes, merci l'accent, .sarl, ou alors sur son site hfperfumes, à nouveau.fr. Si tu veux donner un petit coup de pouce au podcast et donner de la visibilité à ce super métier, ben n'oublie pas le commentaire sur Apple Podcast. Et puis surtout, surtout, s'il te plaît, fais du bruit. Parle-en à ton entourage, poste sur les réseaux sociaux cet épisode. Si t'as une tante, un voisin, un ami journaliste, s'il te plaît, touche-lui deux mots au sujet du podcast. Une couverture sur un média, y a rien de mieux. S'il te plaît, aide-nous à faire voyager le podcast. Je te dis à dans 15 jours pour la découverte d'un nouveau métier qui va être plutôt canon aussi. Et d'ici là, je te souhaite une très, mais alors très belle semaine à toi. À bientôt, ciao !